OK, on a commencé notre neuvième leçon dans notre série sur la mortification dans la vie du croyant. Alors, on avait cette semaine, on va voir le premier principe spécifique. On avait vu qu'après les deux règles générales, il y avait 9 principes spécifiques. Alors, le premier principe spécifique, c'est le besoin de considérer les dangereux symptômes accompagnant le péché non mortifié. Alors, il va faire une déclaration concernant 6 symptômes qu'il demande. Il dit, dans le fond, avant de commencer à pratiquer, il dit qu'il y a des étapes préparatoires. Puis parmi les étapes préparatoires, c'est une des étapes préparatoires, c'est de regarder si dans ta vie, avant de commencer à pratiquer la mortification, s'il y a un de ces 6 symptômes-là. Et la réponse, il dit, dans l'affirmative, t'es dans un état spirituel déplorable et il est grandement temps que tu donnes un grand coup de roue. Alors, on va faire une brève révision de ce qu'on avait vu dans les sermons 7 et 8. On avait examiné les deux règles générales sans lesquelles aucun péché ne sera authentiquement et bibliquement mortifié. La première règle, c'était que pour mortifier le péché, ça prenait de façon absolue un amour et un intérêt sincère dans la personne de Christ et dans son œuvre. Bien sûr, ceci découle de la grâce déjà reçue. Comme il dit en anglais, il dit « from grace and not for grace ». Dans le fond, si tu as un intérêt sincère pour la personne de Christ, c'est que tu l'as reçu par grâce et tu ne le fais pas pour obtenir de la grâce. La différence qui fait. La deuxième règle, c'est que pour mortifier le péché, il faut acquiescer dans notre vie une obéissance universelle, dans le sens qu'on ne doit pas sélectionner les péchés qui nous font souffrir ou qui dérangent notre paix, mais plutôt acquiescer que nous devons mortifier tous les péchés sans exception et sans aucune réserve mentale. Alors là, on commence les 9 principes spécifiques. Alors, dans les sermons 9 à 14, Owen développe ce qu'il appelle les 9, en anglais, il dit « particular directions » ou « principes spécifiques ». Ces principes spécifiques peuvent être divisés en 2 catégories. Alors, ce soir, on va commencer à regarder la première catégorie. Il y a ceux qui sont préparatoires à la mortification, puis il y a ceux qui sont inhérents à la pratique. Donc, il dit, avant de le faire, la mortification, il faut que tu te prépares. Puis il dit, après, là, il faut que tu la pratiques. Alors, on va regarder les principes. Alors, le premier principe qu'il veut qu'on regarde, c'est on se doit de considérer les symptômes dangereux qui accompagnent tout péché non mortifié. Alors, si dans notre vie, il y a un ou plusieurs péchés qu'on a négligés, qu'on n'a pas mortifié, il veut nous faire prendre conscience qu'il y a des très grands dangers à ça. Alors, Owen considère qu'il est primordial pour le chrétien de faire précéder la pratique de la mortification par un examen de soi pour vérifier si l'âme n'est pas dominée par l'un ou l'autre des 6 symptômes suivants. Et dans l'affirmative, prendre conscience que des remèdes extraordinaires se doivent alors d'être utilisés, sans quoi la mortification risque d'être inefficace. Le premier symptôme, c'est le péché invétéré. En anglais, ils disent « inveteredness ». Autrement dit, c'est le péché invétéré, c'est un péché qui est installé depuis longtemps, qui a pris racine et qui est vraiment installé. Si un péché s'est confortablement installé dans un cœur, qu'il a apporté son influence corruptrice et sa prévalence sans qu'il n'ait été mortifié vigoureusement, il existe un grand danger. A-t-on, par exemple, permis à la mondanité, à l'ambition, à l'avarice, à la gourmandise de prendre le dessus et de nous vaincre à force d'habitude? A-t-on laissé l'habitude des pensées impures, par exemple, envahir notre vie? Et là, il vient, il nous donne l'exemple dans le psaume 38, verset 1 à 8, le psaume de David. Psaume de David pour souvenir. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Alors, l'idée qu'il veut faire prendre conscience, c'est comme David, à cause de son péché, avait laissé le péché envahir sa vie. Pour commencer, il a voulu aller avec Bathsheba. Ensuite, il a voulu faire tuer son mari. Et ensuite, toutes ces choses-là ont eu beaucoup, beaucoup d'influence. Alors, c'est sûr qu'après que le prophète est venu, Nathan est venu, qui lui a reproché son péché, ça a pris ça pour le secouer, lui faire prendre conscience de son péché. Et là, dans le psaume 38, verset 1 à 8, on voit vraiment l'état déplorable dans lequel il était. Et il se devait de faire un grand coup de barre. Sans ça, c'était dangereux. Alors, lorsque le pécheur a laissé un ou des péchés non mortifiés conquérir son âme, la corrompre et ronger sa force, il s'est placé lui-même dans une très dangereuse condition. Des remèdes extraordinaires doivent être administrés. Seule la grâce de Dieu et une action extrêmement vigoureuse et incessante pourront le sortir de son marasme. Il devra reconquérir le terrain perdu et le tout sera ardu. Comment une telle personne pourra-t-elle distinguer entre un péché non mortifié et l'état de complète dominance par le péché? Ce qui indique que le pécheur est possiblement un non-chrétien. Le pécheur qui constate que le péché est si solidement installé dans son âme se verra envahi par le doute et le doute de la possibilité d'être restauré dans sa communion avec Dieu. Comme Owen dit, de vieilles blessures négligées peuvent s'avérer mortelles et très dangereuses. Le deuxième symptôme, donc le premier symptôme, c'était le péché invétéré. Si on a laissé le péché s'enraciner dans notre cœur. Le deuxième symptôme, c'est ce que lui appelle la fausse paix du cœur. Nos cœurs ont la tendance naturelle de se mentir et de se voiler la vérité. Nous préférons parfois la fausse et apparente paix à l'authentique. Owen affirme que nous faisons cela de deux manières. La première, c'est lorsque nous reconnaissons quelques péchés dans nos cœurs et que nous tardons et négligeons à le combattre et le mortifier avec diligence. Nous cherchons alors en nos cœurs de bonnes choses, ce que nous croyons faire de bien, pour nous mentir et apaiser notre conscience, se rappeler nos bons moments, nos bonnes expériences avec Dieu est recommandable, mais non pour camoufler nos manquements et s'enraciner et laisser le péché s'enraciner dans nos cœurs. Là, vraiment, l'idée, c'est qu'on a tendance à se mentir à nous-mêmes et que parfois, pour ne pas combattre ce péché-là, on a tendance à reviser notre vie, à regarder les bons coups qu'on a faits spirituellement, à se consoler avec ça plutôt que de mortifier le péché lui-même. Et la deuxième manière que le pécheur essaie d'avoir une fausse paix, d'installer une fausse paix dans son cœur, c'est lorsque nous sommes tentés de changer la grâce de Dieu en dissolution ou en licence pour péché. D'avoir une grande indulgence pour nos péchés en croyant que Dieu nous a pardonné tous nos péchés et que cela nous autorise à pécher est la manifestation d'une grande hypocrisie. Paul nous avertit solennellement de ne pas tomber dans ce piège. Par exemple, dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2, il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » On a également Tite, chapitre 2, versets 9 à 12, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire à toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. On a aussi Jude 1, verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu, en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Si on regarde, par exemple, la situation aux États-Unis actuellement, on pourrait regarder aussi au Canada, je dirais que c'est encore plus remarquable aux États-Unis parce que il y a 50 % de la population, si tu te promènes, tu fais du porte-à-porte aux États-Unis, 50 % des gens qui vont dire qu'ils sont nés de nouveau. « I'm born again, I'm a born again Christian. » Alors, quand tu viens pour renoncer l'Évangile, ils disent « Oh, moi, je suis déjà allé à une campagne de Billy Graham, j'ai descendu l'allée, je suis sauvé. » Mais leur vie de tous les jours ne témoigne pas de l'authenticité de leur foi. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de mortification du péché. Alors, c'est fort probablement quelque chose de faux. Quand on regarde ça, c'est quelque chose qui fait peur, parce que des gens, on dit que 50% d'une population qui se croit chrétien, qui dans le fond ne l'est pas, est quelque chose à faire dresser les cheveux sur la tête, là, quelque part. Parce que ces gens-là deviennent plus difficiles à évangéliser parce qu'ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais c'est très certainement qu'ils ne connaissent pas les doctrines d'aplomb sur la repentance et la mortification du péché. Sans ça, eux aussi se mettraient à avoir la crainte de... Le troisième symptôme, c'est la fréquence de succès du péché. Lorsque le péché obtient facilement l'accord de notre volonté, cela indique un mauvais état de notre âme. Nous devons nous rappeler que l'accord de la volonté peut se manifester sans que le péché soit actualisé. Le péché se donne libre cours dans la pensée. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que parfois le péché ne s'actualise pas, il ne devient pas réalité en acte. Mais la personne qui ne fait pas attention à sa vie de pensée, autrement dit, personne ne voit qu'il pêche à la planche dans la tête, mais dans la tête, ça, si tu verrais ça, là, ça serait comme... Ce ne sera pas beau, comme on dit. Alors, ce qu'il dit, lui, c'est qu'on doit se rappeler que laisser libre cours à la folle du logis, on pourrait dire, dans des penchés pécheresses, ce n'est pas à cause que tu ne l'as pas actualisé que ce n'est pas un péché très grave aussi. Le péché, se donne libre cours dans la pensée. Que cet état ait été causé par notre négligence ou par inadvertance n'enlève pas le côté volontaire du péché. Autrement dit, si le péché a beaucoup de succès dans ta vie, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Quatrième symptôme, c'est que seule la peur du jugement est notre motivation. Si quelqu'un mortifie le péché, mais la seule raison pour laquelle il le fait, c'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pas pour sa sanctification, c'est juste parce qu'il a peur d'être jugé. Il a peur d'obtenir un châtiment de la part de Dieu. Lui, il dit que c'est une très mauvaise chose. Quelques-uns d'entre nous peuvent ne pas pécher par la seule peur de subir un jugement ou un châtiment de Dieu. Autrement dit, la personne, elle se dit, je ne dois pas pécher parce que Dieu me punira. Ça ne doit pas être ta principale motivation. Cela ne doit pas être notre principale motivation. Agir de la sorte indique, selon Owen, que le péché a conquis notre volonté. Nous devons plutôt nous servir des armes de l'Évangile. La mort de Christ, l'amour de Dieu, la nature détestable du péché et la préciosité de la communion avec Dieu. Autrement dit, tu es en train de remettre les pendules à l'heure. On ne mortifie pas le péché parce qu'on a peur du jugement ou du châtiment. Et là, il dit les véritables maisons, la mort de Christ, l'amour de Dieu, la nature détestable du péché et la préciosité de la communion avec Dieu. Ça doit être ça qui est notre principale motivation. Nous pouvons illustrer ce principe avec l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Genèse 39, versets 9 à 10. Alors, on sait qu'il y avait la femme qui essayait de coucher avec. Alors, il répond, il dit, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, parle de son maître, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Voyez-vous, sa motivation, c'était pas parce qu'il avait peur que son patron le découvre. Sa motivation, c'est qu'il avait la crainte de Dieu. Très différent. Et il dit, verset 10, « Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Alors, non seulement il avait peur de crainte de Dieu, mais comme ça dit, même si elle parlait tous les jours, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Donc, il a pris à un moment donné les moyens pour ne plus la rencontrer. Donc, il y a vraiment l'idée que mortifier le péché, c'est pas juste du bal. On va y aller pareil, puis il y a un petit plaisir à jouer avec ça. Un peu comme Samson, quand il jouait avec des lilas, là, à un moment donné, ça l'a fait tomber. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors, c'est vraiment un rappel que notre principale motivation, ça doit être plus la crainte de Dieu que la peur d'être puni. Cinquième symptôme, ce qu'on appelle l'endurcissement judiciaire. Quand on regarde l'histoire de Pharaon dans le livre de l'Exode, Dieu faisait des miracles devant lui, devant sa cour, et il disait, tu laisseras sortir mon peuple. Et là, dès qu'il y avait une pression, il cédait, là, il changeait d'idée. L'endurcissement judiciaire, c'est quand le Seigneur te demande quelque chose, puis tu cèdes sur le coup, mais tu n'as pas aussitôt... La plaie est enlevée, elle n'est pas aussitôt enlevée que tu recommences. À ce moment-là, le Seigneur, sa méthode de correction, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement judiciaire. C'est que ta désobéissance t'emmène le jugement que tu t'endurcis. Ton cœur s'endurcit. Il arrive que Dieu permette qu'un péché ou des péchés nous domine pour nous châtier pour des péchés passés que nous avons négligé de mortifier par notre folie ou par notre négligence. Prenons l'exemple d'Israël qui se plaignait devant Dieu dans Ésaïe 63, verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Voyez-vous, il était conscient qu'à force de pécher, ça fait en sorte que Dieu te juge judiciairement et que ton cœur s'endurcit. Lorsqu'il n'y a pas de véritable repentance, de véritable mortification. Dieu peut envoyer une nouvelle affliction ou permettre un nouveau péché de manière à ramener le péché non mortifié à la souvenance. Alors, souvent, le Seigneur va se servir d'un péché qui va laisser te dominer, et le but de ça, c'est pour ramener à ton souvenir, quand qu'on se souvienne des frères de Joseph, à un moment donné, ils avaient fait du mal, ils se sont retrouvés devant Joseph, qui était rendu second après Pharaon, et qu'est-ce que le Seigneur a permis? Et là, ils ont eu toutes sortes de troubles, et Dieu était au-dessus et contrôlait les choses de manière à ce que là, ils se sont rendus compte, ils ont dit, « Ah, on est probablement dans le trouble parce que Dieu nous juge alors qu'on a laissé... » Voyez-vous, permettait un péché pour ramener à la souvenance un vieux péché qu'il avait commis dans le passé. Owen conclut en disant que si nous avons reçu miséricorde, protection ou délivrance de Dieu, sans lui avoir manifesté notre gratitude, que nous n'avons pas travaillé sérieusement à la mortification du péché dans nos vies, que nous avons laissé la voie aux tentations du monde à s'installer, nous avons grand intérêt à se réveiller et à implorer le secours immédiat de Dieu parce que nous sommes en grand danger. Voyez-vous, il en nomme six et qui peut dire qu'il n'y a aucun de ces symptômes-là qui lui parle un petit peu, là. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Je ne sais pas si vous autres, ça vous parle. Six symptômes. Le sixième, c'est la résistance au châtiment de Dieu. Notre corruption est d'une telle profondeur qu'il peut arriver que nous préférions demeurer dans un péché plutôt que de se repentir alors que Dieu nous châtie. Nous refusons obstinément de réagir à la discipline gracieuse de Dieu. Prenez le passage dans quand on prend le repas du Seigneur et qu'il y avait des gens qui avaient pris le repas du Seigneur indignement. Qu'est-ce qui était arrivé? Le Seigneur avait permis que certains tombent malades, d'autres soient infirmes, d'autres meurent. Alors le Seigneur se sert de ce... Alors quand quelqu'un résiste à ses châtiments, parfois il envoie un jugement. Ça ne veut pas dire que la personne perd son salut, mais ça veut dire que là c'est fait... Alors c'est un grand coup, comme on dit. Prenons l'exemple d'Ésaïe 57, verset 17. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une colère éternelle, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. » Alors, le Seigneur, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a envoyé des châtiments, puis quand ça ne réagit pas, il dit, là, je frappe, il s'irrite, il frappe, et après ça, il se cache. Puis quand le Seigneur se cache dans nos vies, là, c'est pas drôle, là. Owen nous rappelle cette vérité. Seule la grâce souveraine de Dieu peut ramener un pécheur obstiné, après que Dieu eut exercé sur lui la discipline prolongée. Cependant, le pécheur ne peut se fier à l'obtention automatique de la grâce de Dieu, et il peut permettre que nous continuions dans notre folie. Quand on regarde Ésaïe 1, je trouve que c'est un super de beau passage pour nous parler de ce principe-là, la résistance au châtiment. Ésaïe 1, verset 1 à 10. Prophète d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et remarquez bien le verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Il parle du peuple juif, il parle du peuple élu. Et gardez le nom qu'il leur donne. Chef de Sodome, peuple de Gomorre. Et là, il leur dit, j'ai eu beau vous envoyer n'importe quoi, que votre pays soit dévasté, la tête est malade, tout est malade, tout est poqué, j'ai frappé partout, puis vous ne réagissez pas. Hey, c'est grave, là. Il y a des occasions où Dieu va visiter les hommes pour leurs actions méchantes. Il l'a fait avec les frères de Joseph dans le livre de la Genèse. Cette visite les amena à se remémorer leurs péchés, à acquiescer à leur culpabilité et à se juger eux-mêmes. Le Seigneur peut parler par divers moyens. Le danger, la maladie et les troubles de toutes sortes. Le Seigneur parle aussi à travers sa parole. Mais l'âme qui persiste dans la rébellion, après avoir été avertie par Dieu, se voit dans une très déplorable condition. Tous les avertissements de Dieu sont d'inestimable miséricorde. Les méprisés exposent le pécheur à de graves jugements. Louons le Seigneur pour son infinie patience envers nous. Cependant, soyons très attentifs de ne pas abuser de ses bontés. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce type de principe spécifique. Et la leçon 9, là, j'ai fait la leçon 10 également. Et je m'attendais plutôt à des genres de recettes. Il faut que tu pries, il faut que tu ailles au culte et ce genre de choses-là. Mais c'est pas tout à fait ça qui est... Et quand il dit préparatoire, je pense que c'est nécessaire que quelqu'un regarde s'il n'est pas dans un de ces états-là. Parce qu'il dit, si dans l'affirmative, tu es dans un... Il y a un de ces symptômes-là qui est présent dans ta vie, même en petite quantité. Tu es dans un état spirituel déplorable. Et il faut que tu bouges. Puis il dit, la seule chose qui peut faire en sorte que tu sortes de ça, c'est la grâce souveraine de Dieu et ton action vigoureuse. Ça veut dire que, tu sais, quand le Seigneur dit le péché, si ton œil arrache-le. Tu sais, c'est comme, quand on parle de si ton œil te fait pécher, il faudrait qu'on s'arrache un œil chaque fois qu'on pêche par les yeux. D'après moi, il n'y aura pas grand monde qui serait... On serait tout aveugle, probablement. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut prendre des actions très, très fortes quand le Seigneur permet qu'on soit avisé. Si on reconnaît qu'il y a une de ces symptômes-là, de ces six symptômes-là qui sont dans nos vies, il dit, essaye pas de pratiquer la mortification sans d'abord avoir réglé ta situation avec ton symptôme. Sans ça, ça va être inefficace. Ça ne marchera pas. Moi, je trouve qu'il est d'une très grande sagesse parce qu'il ne va pas juste sur les petits moyens, il va vraiment aux racines, il va en profondeur. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de la leçon d'aujourd'hui? Néhémie 3. Le premier, c'est très certainement de prendre conscience de ce premier principe spécifique. Considérons les dangereux symptômes accompagnant les péchés non mortifiés. Et considérer, ça veut dire s'arrêter, les regarder un par un, puis regarder s'il n'y en a pas un de ceux-là qui s'adresse, dans lesquels nous, on se trouve. La deuxième application, les symptômes suivants sont-ils présents dans nos vies? Le péché invétéré, la fausse paix du cœur, la fréquence de succès du péché dans nos vies, la peur seule du jugement et notre motivation, l'endurcissement judiciaire ou la résistance au châtiment de Dieu. Moi, je présenterai la chose de la manière suivante. Je dis que si on s'examine nous-mêmes à la lumière de ces six choses-là, ça peut arriver qu'on se découvre qu'on est dans un mauvais état. Mais moi, je serais porté à dire, va plus loin un peu, fais pas la job toi-même, parce qu'on est tellement indulgent envers nous-mêmes, aveuglés face à nos propres péchés, qu'on a intérêt plutôt à demander au Seigneur lui-même de venir nous sonder avec son regard de flamme. Quand il regarde l'état de ton âme, lui, il voit la perfection. Nous, on peut dire, oh, ben, on est un peu comme les personnes qui font le ménage, puis que, maintenant, ils veulent plus mettre ça autour du tapis. On est porté à faire ça naturellement. Mais Dieu, lui, si tu lui demandes de te sonder, il va te sonder, crois-moi. Et le troisième principe, c'est que dans l'affirmative, si dans un de ces six symptômes-là, il y en a un que tu t'es reconnu, à ce moment-là, la seule chose que tu as à faire, c'est de supplier Dieu de t'accorder la grâce, de te sortir de ta torpeur et de passer à l'action d'une manière extrêmement vigoureuse et incessante pour reconquérir le terrain perdu. Considérons la bonté et la sévérité de Dieu.